accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, ce sont les plus vulnérables, mineurs, isolés et migrants. On estime que 160 000 d'entre eux ont foulé le sol européen depuis 2015, mais 10 000 ont disparu dans la nature faute de protection. En Suède, le pays qui s'est illustré au plus fort de la crise migratoire par sa générosité et sa politique d'accueil, les jeunes mineurs isolés, comme on les appelle, ne sont plus forcément les bienvenus. Le durcissement de la législation rend l'obtention d'un permis de séjour de plus en plus difficile quand ils ne sont pas renvoyés dans leur pays d'origine, l'Afghanistan par exemple. Ce sont eux les grands perdants des réformes politiques de l'asile. À Stockholm, les explications d'Anne-Françoise Hiver.
Dans le royaume scandinave, personne n'avait anticipé leur arrivée. Dans l'urgence, il a fallu trouver des hébergements, des places dans les écoles, des adultes pour les encadrer. Ils ont été dispatchés dans tout le pays, placés dans des centres qui leur étaient réservés. Depuis plusieurs années, la Suède accueillait à bras ouverts les demandeurs d'asile. Mais très vite, la méfiance s'installe. Plusieurs lieux d'hébergement sont incendiés avant même leur mise en service. Des voisins se mobilisent contre leur arrivée. Rapidement, l'âge de ces jeunes demandeurs d'asile est mis en doute. À partir de 2017, on leur fait subir des examens, des os du genou, de la mâchoire. Les résultats ont beau être contestés par de nombreuses professions, au moindre doute, ils sont déboutés. Peu importe que les services d'émigration débordés aient mis plusieurs années à traiter leurs dossiers, une fois majeurs, ils perdent tous les privilèges accordés aux mineurs. La moitié de ceux arrivés en Suède en 2015 ont obtenu l'asile, les autres sont menacés d'expulsion. Impossible de savoir combien ont été renvoyés en Afghanistan, plusieurs centaines peut-être, deux au moins y sont morts depuis, tués dans des attentats. Mais la plupart ont quitté la Suède avant d'être arrêtés sans attendre l'entrée en application d'une loi en 2018 qui leur permet de rester pour terminer leurs études. Début janvier, 500 familles d'accueil ont signé une pétition. Elles demandent l'amnistie pour tous ces jeunes dont certains vivent cachés par peur d'être arrêtés et renvoyés dans un pays, l'Afghanistan, où beaucoup n'ont plus personne.
Et en France, c'est un nouveau décret qui instaure un fichier des mineurs isolés étrangers qui suscite le malaise parmi les associations, car il impose des examens toujours insatisfaisants sur le contrôle de leur âge et des expulsions à la clé. Des mineurs qui préfèrent passer dans la clandestinité plutôt que de se voir refuser un titre de séjour. C'est aussi ça le grand danger qui font d'eux des proies rêvées de la traite et de leurs obscènes artisans. En Belgique, l'aide sociale à l'enfance les protège dans des foyers où l'on croit surtout des jeunes hommes entre 16 et 18 ans. Des mineurs qui ont échappé au pire et qu'a rencontré Léo Potier à Couvain dans le sud du pays, dans le centre d'accueil Étape Ménard.
Bonjour petit gars, commencez par remplir le fond, sinon on n'arrivera pas à passer.
C'est la fin de la journée d'école et la camionnette du centre réceptionne les jeunes à la gare.
Désolé, pas de place pour toi. Mais pas de place, regarde, c'est
avec son physique de gros nounours bien bâti, Gauthier Declercq est l'un des 12 éducateurs qui travaillent au centre.
Pour ça, pas tout est long dans la voiture, c'est rien de plus chouette de quand ils rentrent d'école, c'est leur demander comment s'est passée leur journée. C'est un peu comme quand nous on rentre à la maison, enfin comme je me souviens quand j'étais petit, mes parents c'était mais qu'est-ce que t'as fait à l'école? Ah ben on raconte toute notre journée. Et voilà, moi j'aimais bien quand mes parents s'intéressaient à ça, donc voilà, je fais exactement la même chose.
Le centre accueille actuellement 19 mineurs, dont 3 filles. On y trouve une petite cuisine où les jeunes peuvent préparer leur repas, une salle de sport, mais aussi le salon où le baby-foot est constamment occupé. Amine a 14 ans, il est arrivé il y a un mois.
En fait, moi mes parents, quand j'étais au Maroc avant, ma mère est décédée en 2004, j'avais un an et mon père est décédé en 2016. Quand mon père est décédé, je suis parti direct, j'ai quitté direct au Maroc. J'ai un frère en France et lui aussi m'a jeté de chez lui parce que j'étais avec lui pendant plusieurs mois. Et après, sa femme ne veut pas que je reste avec eux, bah, elle m'a jeté de chez lui. Bah, donc, il m'a mis dans un centre en France et j'ai pas aimé le foyer et parce qu'il y avait que des gens drogués, tout ça. Tous les jours, il y a des bagarres, des vols et tout ça. Bah, après, j'ai pas aimé, j'ai quitté. En plus, moi, c'était mon rêve d'aller en Belgique. Bah, je suis en Belgique là, je suis bien.
En Belgique, le MENA est un mineur étranger arrivé sans parents ou tuteur. Quel que soit son passé, dans un pays en guerre ou en paix, le seul critère est celui de sa vulnérabilité. et aussi de son âge. C'est pourquoi, en cas de doute, les autorités exigent un examen radiologique osseux des poignets ou de la clavicule, une méthode assez décriée car sa marge d'erreur est de 2 ans. Quoi qu'il en soit, en Belgique, une fois sous le statut de mineur étranger non accompagné, le jeune est mis à l'abri.
Il y avait beaucoup de guerres, on a eu un problème dans la famille.
Sodir a 16 ans, il vient de la région de Kaboul, en Afghanistan.
Parce que notre père, il a travaillé au gouvernement, on a eu un problème avec les talibans. Mais les talibans ont pris notre père, notre oncle l'a dit, il faut aller dans autre pays que vous, sinon les talibans, ils vous tuent. Maintenant, on a envie d'aller continuer l'école pour faire vivre en Belgique. On a payé papier. Si on a pris papier positif, on voulait demander à notre oncle qu'il envoie notre famille aussi pour vivre en Belgique.
C'est souvent ce qui revient dans la bouche des MENA. S'adapter, apprendre la langue pour pouvoir à terme faire venir la famille. Mais le statut de MENA n'apporte aucune sécurité au long terme. Car si certains enfants arrivés très jeunes en Belgique peuvent obtenir l'assurance de rester après leur majorité, car ils ont eu le temps d'aller à l'école, de s'intégrer, d'autres, arrivés plus tard, vers 16 ans par exemple, risquent d'être reconduits à la frontière dès leur 18e anniversaire, car ils ne seront pas considérés comme suffisamment intégrés. Christophe De Flemme est le directeur de l'étape.
Donc ça, c'est des risques auxquels les jeunes commencent ici à être confrontés. Il y a un des jeunes qui est pratiquement dans cette situation et qui pour l'instant n'a toujours pas de réponse positive. Et donc c'est une très grande incertitude, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, d'anxiété. Donc c'est très difficile à gérer émotionnellement pour ces jeunes. Évidemment qu'ils viennent ici avec l'espoir de trouver sans doute mieux que ce qu'ils ont vécu auparavant. Mais on n'est clairement pas dans quelque chose de l'ordre de « je vais profiter, je vais me la couler douce ». Ils ne se la coulent absolument pas douce. Ça leur demande beaucoup d'efforts d'être ici en termes d'adaptation. On leur demande beaucoup. Ils vivent beaucoup de pression. Ils ont vécu et ils vivent des réalités que des jeunes de leur âge ne devraient pas vivre.
Le directeur de l'association sait de quoi il parle. Car lui et son équipe ont déjà connu des cas de mineurs étrangers non accompagnés victimes de la traite. Gauthier pense notamment à de jeunes garçons forcés à voler à l'étalage pour le compte de groupes criminels. L'été dernier, en Belgique, a eu lieu un procès retentissant, le procès dit Mama Leather, un groupe de proxénètes qui prostituait de jeunes Nigérianes, souvent mineures. Elles seraient 3000 à arriver chaque année en Europe, dont une bonne partie en Belgique.
On parle de viol, on parle de prostitution, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à pouvoir gérer quand on est encore un enfant. C'est vraiment compliqué à travailler avec eux parce que il faut qu'ils soient conçus d'abord psychologiquement.
En 2017, les autorités belges dénombraient officiellement 735 enfants sous le régime du mineur étranger non accompagné.
Et en Turquie, qui accueille un des plus grands contingents de réfugiés, plus de 3,5 millions de Syriens, les mineurs sont théoriquement protégés par les textes, mais dans la réalité, ils se retrouvent bien souvent seuls et livrés à eux-mêmes à Istanbul, à Nandlaouar.
Pour tout ce qui a trait à l'accueil des migrants mineurs notamment, des mineurs isolés en particulier, le droit turc a fait d'énormes progrès ces dernières années. La Turquie n'a pas eu le choix. La guerre ravage un de ses voisins, la Syrie, depuis bientôt 8 ans, et plus de 3,6 millions de Syriens ont trouvé refuge chez elle, ce qui en fait le premier pays d'accueil de réfugiés au monde. Les Syriens ne sont pas seuls, ils ont rejoint les milliers d'Irakiens, d'Afghans, d'Iraniens, de Pakistanais ou de Somaliens qui affluaient déjà et continuent d'affluer vers la Turquie. Parmi eux, combien d'enfants seuls? Si aucun chiffre fiable n'existe à ce sujet, c'est que beaucoup de ces mineurs sont entièrement livrés à eux-mêmes, privés et souvent ignorants des droits que la loi turque est censée leur offrir. La loi de protection des enfants ne fait par exemple aucune différence entre un mineur turc et un migrant mineur isolé du point de vue de la protection. Ils dépendent du ministère de la Famille et des Politiques Sociales qui, d'après une autre loi adoptée en 2013, doit leur garantir entre autres un logement, un accès aux soins et à l'éducation. Voilà pour la théorie. En pratique, ces migrants mineurs isolés, s'ils ne se manifestent pas d'eux-mêmes, ont peu de chances d'être repérés par les services sociaux. Et même lorsque cela est le cas, les choses se passent rarement comme les textes le voudraient. Un rapport publié il y a quelques mois par deux universitaires turcs identifie plusieurs lacunes. En fait, de protection, ces mineurs, adolescents pour la plupart, sont le plus souvent envoyés dans un centre de rétention le temps de régler leur situation et de déterminer médicalement leur âge, procédure parfois humiliante, souligne le rapport. Lorsqu'ils sont arrêtés, la loi voudrait qu'ils soient détenus à l'écart des autres migrants, or, faute de moyens, ce n'est jamais le cas. Le rapport regrette également l'absence d'un réseau de traducteurs, de psychologues et de travailleurs sociaux dédiés à ces enfants, alors que là encore, le droit turc le prévoit. Ces manques, auxquels s'ajoutent des problèmes de communication entre les services de l'État, retardent l'accès aux droits pour ces mineurs isolés, notamment à l'éducation, et augmentent les risques bien connus qui menacent ces enfants, travail forcé, criminalité, trafic d'êtres humains, sans parler de la détresse matérielle et psychologique.
Good evening, ladies and gentlemen.
You recognize my voice?
This is your storyteller.
That's a good start.
Vous pensez que l'Europe vous ennuie et vous n'y comprenez pas grand-chose, ce livre est fait pour vous. Une fiction sous forme de polar qui permet de comprendre de l'intérieur le fonctionnement des institutions européennes. Ces auteurs en connaissent parfaitement le mécanisme puisque l'un y a travaillé et que l'autre y travaille encore. Maxime Caligaro et Eric Carder ont imaginé Les Compromis. Une fiction qui parle d'une eurodéputée verte retrouvée morte en plein scandale sur les moteurs diesel truqués, du sang et du scandale. Non, l'Europe n'est pas si tranquille, comme l'a expliqué Maxime Caligaro à Catherine Rolland.
C'est Claude Chabrol qui disait que c'est très difficile d'emmerder totalement les gens avec du polar. Et le polar permet d'aller voir dans des coins qui sont un peu inexplorés. Et Bruxelles, c'est un peu ça, au fait. Il y a un terreau narratif, là, que nous, on a essayé de mettre sur la page.
Donc, ça se déroule au moment de la construction de la directive diesel. On est en 2016, après l'énorme scandale qui a éclaté, qui impliquait les constructeurs allemands. Une eurodéputée verte, Sandrine Berger, est en charge du dossier. Elle est retrouvée morte. Et c'est là que ça va commencer, cette enquête, avec le jeune assistant, Émile, et puis un journaliste qui ressemble furieusement à Jean Quatremer.
L'enquête de la police belge piétine un petit peu. Le Parlement européen, c'est une organisation internationale, donc extraterritorialité, immunité parlementaire, très difficile pour des policiers belges d'enquêter. Et donc c'est Émile, cet assistant parlementaire de Sandrine Berger, l'eurodéputée verte, qui a chuté. On ne sait pas si c'est un suicide, on ne sait pas si c'est un assassinat, et on ne sait pas si c'est un accident.
Oui, elle est tombée du 12e étage quand même.
Voilà, en face de l'hémicycle, gisant dans une mare de sang, donc entourée de papiers qui sont les notes autour de la directive diesel dont elle avait la charge, qu'elle devait présenter. Et donc c'est Émile, son assistant, qui va essayer de reconstruire un peu les derniers moments de sa vie. Et il va le faire donc avec Guy Camaro, qui est un vieux briscard du journalisme bruxellois. Vous trouvez qu'il ressemble à Jean Quatremer ? J'y avais pas pensé. Mais effectivement, il est fort en gueule, il porte des blousons en cuir. Et il a un carnet d'adresse qui permet parfois d'aller plus vite que la police pour résoudre des enquêtes.
Et puis c'est un passionné d'Europe, c'est important dans ce contexte.
Alors, c'est un roman sur les gens qui travaillent dans et autour des institutions européennes. Donc, il y a des journalistes très pro-européens. Vous avez aussi des conseillers du Front National. Vous avez des idéalistes, comme notre jeune Émile. Vous avez des cyniques. Et on a voulu faire parler ces personnages pour que chacun des lecteurs puisse s'y retrouver et fasse lui-même son interprétation de ce que c'est que l'Europe, de ce que c'est que ce roman et de ce que c'est que cette intrigue policière. Et
justement, vous en profitez pour décrire un certain nombre d'institutions, de comportements politiques aussi, notamment avec le personnage de Nico, celui qu'on appelle Nico, donc c'est un apparatchik des Verts, assez complexe. On pourrait justement penser que le double sens de votre titre, Les Compromis, lui correspond assez, finalement.
Les compromis, c'est l'essence de ce qui se passe à Bruxelles. La quintessence du travail bruxellois, c'est de faire des compromis. Mais, surtout du point de vue de la France, la limite entre le compromis et la compromission est assez ténue. Et donc, le personnage dont vous parlez, Nico, lui, est un apparatchik, et puis il se voit devenir député à la mort de Sandrine Berger. Donc, effectivement, lui va avoir une ascension fulgurante et il sera sous la loupe d'Émile et Guy Camaro dans leur enquête.
Vous en profitez pour décrire le long processus de maturation d'une directive, donc qui doit être acceptée par tous les États membres. Le travail des lobbies également, les lobbies qui sont autorisés, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a une loi qui doit être votée au Parlement.
Il y a beaucoup de fantasmes sur ce que sont les lobbies. Et je pense que nous, dans le roman, on a voulu montrer comment est-ce qu'ils marchent, sans donner d'avis sur la façon dont ils opèrent, mais en donnant des clés de lecture.
Oui, enfin, il semble là particulièrement puissant. C'est un lobby de constructeurs automobiles. Il semble quand même très influent.
Alors, c'est un lobby transnational. La personne qui le représente n'est pas allemand, c'est un Espagnol, Miguel Bondigas, qui est un ancien commissaire. Parce que la question du pantouflage des commissaires est aussi quelque chose qui revient souvent à Bruxelles. Et donc, c'est un lobby qui ne compte pas à la dépense pour se trouver les services d'un ancien commissaire, qui, lui, Et dans les couloirs, papote est très copain avec les énormes délégations allemandes qui ont intérêt à défendre le diesel et qui fait son travail de lobbyiste, alors qui est là effectivement à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Mais c'est le travail d'un bon lobbyiste que d'être là au bon moment, au bon endroit.
Est-ce que vous opposez, comme beaucoup le font en ce moment, le côté technocratique et le côté politique de l'Europe? C'est-à-dire, les technocrates c'est à la Commission, les politiques c'est au Parlement.
Le grand dilemme de l'Union européenne, c'est la discussion entre la politique et le droit. L'Union européenne, c'est un règlement de copropriété, ce sont des règles, ce sont des bases juridiques, et vous faites de la politique dans un terrain qui est assez délimité. Alors souvent on se dit, mais pourquoi l'Europe fait pas ça? Mais parce qu'elle ne le peut pas. Et c'est une des discussions qu'on a dans le roman, hein, puisque ces deux visions s'affrontent, et on voit d'un côté des administrateurs de commission, dont le job est de faire avancer les dossiers, mais dans les règles. Et des politiques, moi j'ai été au contact des députés européens, on veut réinventer la roue un peu à chaque nouveau mandat. On a une discussion à un moment dans le roman entre deux administrateurs, un qui est assez arc-bouté sur le respect des principes, le respect des règles, et puis une autre de la commission justement, dont on dit qu'ils sont technocrates, qui a un peu un sens politique plus prononcé, dont l'un des principes c'est que le droit est un compagnon de route, il faut savoir s'en défaire de temps en temps pour prendre des chemins de traverse et faire un peu de politique. Donc je pense que la distinction entre la commission habitée par des technocrates et le parlement habité par des politiques est un peu simple. Je pense que s'il y a une vraie ligne de fracture à trouver, c'est entre d'un côté la commission et le parlement, qui représentent une méthode de fabrication des règles, qui est ce qu'on appelle, excusez-moi du terme barbare, mais communautaire. Et puis, de l'autre, le Conseil, représenté par des diplomates, les États membres, mais le plus gros lobby à Bruxelles, ce sont les États membres. Ils sont partie du jeu institutionnel, mais ceux qui font le plus pression sur les députés, sur les commissaires, ce sont avant tout les États membres.
Les compromis est publié aux éditions Rivage Noir et fera bientôt l'objet d'une série télévisée.
Predtým, ako Ujo taxikár sa snažil mňa predsvedčiť, že musím ísť dvojiť kotlebu.
Elle est aussi côté scène. La jeune Slovaque d'origine iranienne Nassim Motlag est arrivée dans son pays d'adoption il y a 10 ans à peine, mais elle est devenue l'une des personnalités les plus en vue du stand-up. Ses sketchs humoristiques dénoncent avec bienveillance les travers de la société. Alexis Rosenzweig l'a rencontrée à Bratislava.
Dans les entretiens qu'elle accorde aux médias slovaques, ses interlocuteurs sont souvent surpris qu'elle ne dise pas davantage de mal de la Slovaquie, l'un des pays de l'Union européenne qui a dit un non catégorique à l'accueil de migrants, et plus particulièrement non aux réfugiés musulmans. Aucun doute, elle aime son pays d'adoption, dans lequel elle est arrivée de Téhéran à 15 ans, avec ses parents et ses deux frères. Cela dit, ça ne l'empêche pas de se moquer des Slovaques, en slovaque et en anglais, de leur bigoterie par exemple, qu'elle compare parfois à celle de son pays d'origine, ou de leur tendance à abuser de boissons alcoolisées.
It's internet stuff. They think that I don't read it, but
des remarques racistes, oui, ça m'arrive parfois d'en être victime, dit-elle en précisant qu'il s'agit souvent de commentaires anonymes sur les réseaux sociaux. Elle les lit presque toujours et y trouve parfois de l'inspiration pour de nouveaux sketchs. Sa famille a émigré pour des raisons économiques, mais ses retours réguliers en Iran lui ont rapidement fait comprendre que sa vie de jeune fille à Bratislava était autrement plus libre que celle de ses anciennes camarades de classe et cousines. Son grand frère a commencé à faire du stand-up. Elle a tout de suite voulu l'imiter car elle aime être au centre de l'attention. À 23 ans, les gens reconnaissent désormais Nassi dans la rue à Bratislava et elle profite de la proximité des pays voisins pour aller faire des scènes en anglais à Vienne ou en Tchéquie. Elle ambitionne quand même de poursuivre ses études en relations internationales, en Slovaquie ou ailleurs en Europe, si elle n'a pas trop de difficultés avec les formalités administratives. Mais plutôt que de se plaindre des heures passées dans les files d'attente pour régulariser ses papiers, Nassi Motlag a tendance à plaindre les fonctionnaires slovaques sous-payés et surchargés, sans oublier d'y puiser là aussi de l'inspiration pour faire rire son public.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast. À très vite.